Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, avec nul autre que Charles Gave, mon père, mon meilleur invité. Voilà, écoutez, cette semaine, on va reprendre la suite de la semaine dernière.
On va rester velu.
Voilà, on va rester velu parce qu'on vous avait proposé donc une émission assez cortiquée, dont le but était d'essayer de trouver des pistes de réflexion sur comment s'en sortir et quels sont pour nous les grands thèmes fondamentaux à aborder dans une démocratie. On avait donc rappelé que l'économie pour fonctionner avait besoin de prix libres. Charles, vous avez parlé de Schumpeter, de Minsky, d'Hayek et de Wicksell. Vous avez tous bien suivi, on a eu plein de questions intéressantes, donc ça j'étais vraiment ravie. Ensuite on avait parlé de la monnaie qui était un bien commun et en arrivant, en faisant un détour par John Law, Cantillon et le prince de Conti et son carrosse qui s'affaissait plusieurs carrosses qui s'affaissaient à UNT sous le poids de l'or, on est arrivé à ce moment crucial où tu vas devoir, Charles, nous expliquer, et c'est très important en ce moment parce que vous allez voir, pourquoi la valeur est une notion subjective. Alors, c'est un très beau thème, surtout en cette période de Total et d'actionnaires, et c'est mal le profit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qualifier le prix, comment le prix se conçoit pour déterminer la valeur, c'est une notion importante.
C'est une notion très importante. Alors, j'ai beaucoup écrit là-dessus, et dans le fond... Il y a eu toujours deux thèses qui restent, qui sont sur la valeur. La première thèse, c'est d'Aristote, qui pour une fois s'est gouré. Il a dit que la valeur, ça venait grosso modo du travail qu'on mettait dans l'objet qu'on cherchait à vendre ou le service qu'on cherchait à vendre. Bon.
Donc tu fais une flûte.
Tu fais une flûte, si tu as passé 2 heures.
2 heures à faire une flûte, à faire les trous, à la poncer, à la polir. Tu as 2 heures de ton temps de travail. Donc, imaginons tu mets ton temps de travail à 20 euros de l'heure.
Je la vendrais à 40 plus 5 parce que je me suis donné
du mal. J'ai acheté du bois et puis voilà. Et puis elle est très jolie.
Elle est très jolie et puis c'est la meilleure des flûtes. Et hop, tu la vendrais à 45. L'embêtant, c'est que si tu vas là-dedans, mettons, c'est toujours l'exemple que je prends, tu prends l'exemple du pot-au-feu. C'est que tu mets de la viande, tu fais cuire, donc il y a de la viande, il y a du gaz, il y a des légumes, il y a des carottes, il y a des poireaux, etc. Et à la fin, ton pot-au-feu, c'est quel prix tu vas le mettre, ton pot-au-feu. Et puis si tu le mets, tu peux pas calculer le prix de la carotte par rapport au prix de la pomme de terre, parce qu'elles étaient dans le même champ toutes les deux, donc c'est pas possible. Donc tu arrives à un système où... tu te dis, je vais le vendre. Vous savez quoi? Je vais le vendre à un prix, je pense que quelqu'un va me l'acheter.
Disons que tu as un bistrot, tu dis, c'est mon plat du jour, je vais le mettre à 14 euros.
Je vais le mettre à 14 ou à 18 euros, etc. Et tu espères que les gens vont l'acheter à ce prix-là. Et puis toi, tu achètes tous les autres trucs dont tu avais besoin et tu essayes de faire moins que les 14 euros pour lesquels tu le vends. Bon. Et donc, il faut bien se rendre compte que la valeur, dans le fond, et c'est un autre exemple que je donne souvent, c'est que ma mère portait une bague qui était une ex-marine, et qui n'est pas une pierre qui a une grande valeur.
C'est ce qu'on appelle une pierre semi-précieuse, ou à notre époque, on dit aussi des pierres fines.
Des pierres fines, mais cette pierre, pour moi, sur la main de ma mère, cette bague, elle a une valeur infinie.
Parce elle a une valeur sentimentale, une valeur historique.
Une valeur infinie.
Et il n'y en a qu'une.
Il y en a qu'une avec cette bague. Et donc, je ne la vendrai jamais. Ce n'est pas moi qui l'ai, d'ailleurs, c'est une de mes nièces. Mais enfin, si jamais elle a besoin d'argent, je lui rachète instantanément, etc. Pour peu que j'en ai moi aussi. Donc, la valeur, c'est quelque chose qui est profondément subjectif. À n'importe quel moment, moi, j'ai des millions de valeurs qui se promènent, comme ça, des choses que j'aime, que je n'aime pas. Et puis le type en face, toi, tu auras des valeurs aussi qui seront différentes. Et curieusement, mettons que à un moment, il y a un objet pour lequel je suis prêt à mettre de l'argent, et puis quelqu'un d'autre est prêt à me le vendre à ce prix-là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est qu'il y a un prix qui est établi, et ce prix, il est volontaire des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une transaction volontaire. Et la caractéristique d'une transaction qui se passe volontairement, comme dans une vente aux enchères par exemple, c'est que les deux parties ont l'impression qu'elles ont gagné. C'est-à-dire que les deux sont contents. Celui qui a acheté est content, celui qui est vendu est content. Donc, pour que le prix ait une signification, il faut que ce soit un prix où les deux parties soient contentes. S'il y en a un des deux qui est forcé, etc., c'est plus un prix. Donc, quand il y a un prix qui s'établit comme ça, il est établi pour une milliseconde. Dans le marché des actions, par exemple, les prix changent tout le temps, parce qu'on vend ou on achète. Et vous avez ce prix qui est établi, et à partir de ce prix, les gens peuvent prendre des décisions. L'action est montée, j'en achète plus, ou je la vends, etc. Donc on peut prendre des décisions. Mais pour ça, il faut que les prix soient volontaires. Et donc, le prix auquel on s'arrête n'a rien à voir avec le coût du travail qui a été dedans. Par exemple, si aujourd'hui tu fais une diligence dernier cri, tu mettras plein de travail dedans, mais personne ne te l'achètera parce que personne a besoin d'une diligence. Donc c'est un truc extraordinaire la valeur parce que c'est subjectif, il y en a des millions chez chacun d'entre nous, et de temps en temps, deux valeurs se rencontrent et donne naissance à un prix.
D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je crois qu'instinctivement, tu parlais de salle de vente, mais on est tous allés dans des salles de vente, et à notre époque, les jeunes ménages ne veulent plus de meubles en marqueterie, et souvent ne veulent plus...
Ou d'argenterie.
Ou d'argenterie. Donc on se retrouve avec des ménagères qui peuvent être complètes, mais les gens ne veulent plus avoir d'argenterie, parce que ça veut dire faire l'argenterie, devoir la nettoyer toutes les 6 semaines.
Ça passe pas dans la machine.
Ça peut passer à la machine quand ça a été traité pour certains, et les meubles en marqueterie, pareil, plus personne n'en veut, alors qu'un artisan a pu passer des heures et des heures. Donc, on voit bien que la valeur travaille dans un objet en marqueterie, parce que, simplement, il n'y a plus de marché. Les gens n'en
simplement.
Veulent plus.
Regarde simplement, c'est ce que disait Picasso. Lui, il faisait à main levée comme ça un taureau, parce qu'il dessinait les taureaux comme personne.
Les chevaux, les têtes de chevaux.
Les têtes de chevaux. Il signait Picasso en bas, et ça avait une valeur phénoménale, alors qu'il l'avait fait en 20 secondes, simplement parce qu'il avait mis Picasso en dessous. Donc on voit bien que la valeur d'une tête de dessinée par Picasso n'est pas du tout la valeur d'une tête de cheval dessiné par je sais pas qui d'autre.
Ça, c'est assez vrai aussi. Je veux dire, quand tu es avocat, par exemple, quelquefois, tu vas faire, n'importe quoi, un contrat de travail. Les gens vont dire, ah, mais oui, mais vous avez passé simplement une heure à faire... Non, j'ai pas passé une heure. J'ai passé 8 ans d'études et toute ma compétence à faire des contrats depuis 10 ans. Donc, je peux le faire en une heure, mais demander à n'importe qui d'autre, il va passer 8 jours.
Oui, c'est pour ça que ton heure de travail vaudra beaucoup plus qu'une heure de travail d'une secrétaire. C'est parce que c'est pas la même chose. C'est pas la frappe sur l'ordinateur et la sortie dans l'imprimante qui donne de la valeur au contrat. C'est la valeur intellectuelle. Donc, la valeur travail, ça n'existe pas. Ça amène à des désastres. Prenez un hôpital. C'est assez à la mode des hôpitaux en ce moment. Bon, mais maintenant, c'est un peu, les hôpitaux en France fonctionnent un peu à la valeur travail, ce qui est une imbécilité. Communiste, d'ailleurs. Et donc, quel est le prix de la journée d'hôpital, ben vous devez amortir les études des médecins, les études des infirmières, auxquelles vous ajoutez le prix du coton hydrophile, le lit qu'il faut amortir, changer les draps, etc. Et vous pouvez pas le trouver, quoi. C'est pas possible. Donc la seule façon de déterminer un prix, c'est qu'il y a des gens qui fassent des cliniques privées, des hôpitaux, et puis qui mettent sa clinique privée et ses hôpitaux en
Mais ce que tu disais à propos de l'hôpital, c'est qu'à partir du moment où on a un système de sécurité sociale qui rembourse tout, à partir du moment où il y a une demande infinie...
Le prix est zéro, la demande est infinie, ben la seule solution, c'est la pénurie.
Donc il va y avoir, par définition, on ne peut pas avoir un système qui soit rentable.
Mais rentable, il n'en est pas question.
Non, mais
qui soit opérationnel.
Oui.
Qui soit opérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va avoir, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France, on va avoir des pénuries. Ben, vous serez malade et vous ne pourrez pas aller à l'hôpital. Ou comme en Angleterre, où pour vous faire opérer de la hanche, il y a 9 mois d'attente.
Donc ce qu'il faut véritablement que les gens comprennent, c'est qu'il ne faut pas partir de la valeur pour déterminer le prix. Il faut partir du prix pour déterminer la valeur.
Exactement. La valeur marchande à ce moment-là.
La valeur marchande à ce moment-là. Parce que, quelque part, une chose n'a pas la valeur, vous, vous allez avoir une affection pour cette chose, pour cette flûte que vous avez faite vous-même et ainsi de suite. Mais si on est en pleine pénurie, si on est en plein désert, si j'en sais rien, si vous n'avez pas de musicien sous la main, personne ne va en vouloir. Donc le fait que vous ayez passé, qu'elle soit très jolie, que vous ayez passé 2 heures à la faire, ainsi de suite, n'entre pas dans le contrat. La seule notion qui entre dans le contrat, c'est la demande.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous l'acheter à un prix où vous êtes d'accord tous les deux?
Et ensuite, donc, vous déterminez ce prix.
Et vous déterminez ce prix. Et à ce moment-là, le prix est égal à la valeur.
Mais, à l'instant T.
À l'instant T. Mais à T plus 1, c'est peut-être plus le cas, quoi. Donc, il faut bien comprendre que la valeur est complètement subjective. Ce qui veut dire quelque chose de très important, c'est que dès le moment où un État détermine un prix, il dit, ben, la chambre d'hôpital sera, je sais pas, 200 euros la nuit ou j'en sais rien. Ça n'est plus objectif. C'est qu'il y a quelqu'un qui a déterminé que sa notion de la valeur, c'est-à-dire le fonctionnaire, déterminerait le prix auquel cet objet serait offert.
Et
donc,
alors,
c'est là où on va dans ce que je dis toujours. Vous avez le choix entre la main invisible d'Adam Smith, qui détermine un prix, les deux ensemble, ou bien alors, d'un seul coup, vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Il n'y a rien entre les deux.
Et plus grave que ça, le problème, quand l'État va déterminer, par exemple, que, je vais dire n'importe quoi, le prix du masque qu'on doit mettre sur nos figures, ça risque de revenir, enfin on verra, serait, allez, on va dire, voilà, le masque doit être à 1 euro le masque. On est absolument sûr que de ce moment-là, certaines personnes vont arrêter de produire. Mmh. Parce que si leur unité
est
supérieure, ils vont dire, bah, écoutez, moi, si le prix est fixe, Si je peux pas mettre mon masque à temps, j'en produis plus. Donc en général, à chaque fois dans l'histoire qu'on a vu, et on l'a vu pour l'immobilier, il y a un article dans Contrepoint qui est très bien de Guillaume Bénard sur ça, qui a repris justement toutes les fois historiquement où l'État avait voulu intervenir. Ça paraît une bonne idée dans le domaine de l'immobilier de dire voilà, on va bloquer les loyers. Sauf que ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est que, en général, les propriétaires disent, ah bah, si c'est pour se retrouver avec un locataire qui paye ça, plus le risque inhérent à toute location dans le système actuel français, je ne loue plus. Et tu ne peux pas forcer les gens.
Ou alors, ce qui se passe, que j'ai vu aussi dans ma vie, puisqu'il y avait des, je suis vieux comme tout, mais ce que j'ai vu, c'est que bon, si vous avez réussi vous cherchez à louer un appartement et le propriétaire peut pas le louer à plus de, parce que les prêts sont bloqués à 1500 euros. Ben, vous savez quoi? Il va le donner à celui qui l'achètera à 1500 euros, mais qui lui donnera une soulte en cash de 10 000 euros.
Évidemment.
Et donc, c'est complètement idiot. Puisque, pas tout le monde peut donner 10 000 euros, mais tout le monde peut peut-être payer 2000 euros. Donc, on empêche le marché de s'ajuster. Parce que les 10 000 euros, ben, ils apparaissent en cash. Donc, ça peut pas, on peut plus bâtir des immeubles sur la base qu'on va recevoir du cash. Et donc, ça fausse complètement le marché. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous voyez que bon, l'État français, mettons qu'il soit à peu près à 60% du PIB, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus que, au mieux, 40% de la richesse créée en France qui est faite sur des transactions volontaires. Or, c'est à partir de ces transactions volontaires, d'un prix qui est réel, que les entrepreneurs vont pouvoir faire des calculs pour savoir s'ils doivent en produire plus, quelle sera leur rentabilité, etc. On ne peut pas faire des calculs d'investissement sur le long terme sur des prix administrés. On peut le faire sur des prix de marché, parce que là, on sait à peu près quelle est la relation entre l'offre et la demande. Donc, aujourd'hui, on peut dire que 60% de l'économie française est gérée selon des principes de la valeur travail communiste, et 40% selon les principes subjectifs. Mais il peut pas y avoir de croissance dans une société communiste, parce que il n'y a pas de mécanisme d'ajustement du capital sur le long terme. Donc, on revient à ce qu'on a souvent décidé, d'écrire ici, c'est-à-dire que le capital, c'est un bien très rare. Et aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que 60% du capital en France, c'est-à-dire de l'épargne des Français, de leurs ancêtres, etc., est alloué en fonction de ce que pensent un certain nombre de fonctionnaires à Bercy, et qu'il n'y a plus que 40% qui sont alloués en fonction
de la réalité du marché, de
volonté individuelle où tous les deux sont gagnants. Donc, petit à petit, ben, on devient l'Union soviétique. On rentre dans une période de stagnation inéluctable, puisqu'il n'y a plus de liberté dans le système. Donc, la valeur subjective, ça part du principe que le prix est déterminé par deux individus librement. Ben, si ce n'est pas le cas, eh bien, on n'est plus dans une société libre. C'est tout ce qu'il faut dire. Donc, les gens sont peut-être très contents de vivre en tyrannie, mais moi, personnellement, je n'ai pas une passion.
Alors, c'est bien que tu parles de liberté, parce que ça m'amène la transition, qui est la prééminence de l'individu sur la tribu.
C'est
un autre concept très important dans une société libre, dans une société ouverte. Et donc, il faudrait que tu expliques pourquoi il est important de revenir à cette primauté de l'individu.
Alors ça, c'est une notion qui est... Huntington avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Le choc des civilisations », je crois, et dans lequel il expliquait qu'il y avait, je ne sais plus très bien, 9-10 grandes civilisations dans le monde au moment où il écrivait son bouquin, et qu'il y en avait une qui était complètement différente des autres, c'était la civilisation occidentale, parce qu'elle était la seule qui... disait que l'individu était supérieur à tout. C'est-à-dire que la liberté individuelle, c'était la valeur totale. Toutes les autres civilisations disaient que l'individu devait se soumettre à l'État, à la tribu, à la religion dominante, etc. Faute de quoi, il était exclu. Et ça vient très profondément du christianisme. Il faudra qu'on parle un jour de Toynbee et du rôle de religion dans l'histoire, mais parce que le christianisme a ceci d'extraordinaire, c'est que quand vous lisez les évangiles, j'en ai même fait un petit livre qui s'appelle « Un libéral nommé Jésus », il y a deux choses qui ressortent de façon étonnante. La première, c'est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. C'est ce qu'avait dit André Frossard, qui était un type qui avait eu une expérience mystique assez étonnante. Et Dieu ne s'est compté que jusqu'à un, ça veut dire que dans la religion chrétienne, vous avez une relation avec Dieu qui est de 1 à 1. Il a pour vous un projet. Ce projet, c'est à vous de le découvrir tout au long de notre vie. Et si vous y arrivez, vous serez heureux. Si vous faites autre chose, vous ne serez pas si bien que ça. Donc, Dieu ne s'intéresse pas aux syndicats, aux nations, à tout ça. Il s'intéresse à avoir une relation personnelle avec vous, ce qui est très curieux. C'est tout à fait, je dis toujours en rigolant, que le problème, la différence entre les juifs et les chrétiens, c'est que les juifs avaient signé une convention collective avec Dieu, c'était la première alliance, et qu'ils n'arrêtaient pas de gueuler en disant « Non, je ne l'ai pas signé, c'est pas vrai, j'ai pas signé pour ça. » Donc, Dieu a eu plein d'emmerdements. Ils n'étaient pas d'accord. On les amenait dans le désert, ils ne voulaient pas. Bref, ils n'arrêtaient pas de gueuler, quoi. Et donc, Dieu s'est dit, bon, ça ne marche pas. Maintenant, je vais signer des contrats individuels. Donc, en quelque sorte, dans la religion juive à la religion chrétienne, on est passé de la convention collective au contrat individuel. Et donc, on a un contrat individuel avec Dieu. Bon, ça, c'est curieux. Et la deuxième des choses qui est très curieuse aussi, c'est que dans les évangiles, tous ceux qui prennent des risques et qui se plantent, hein, la femme adultère, le fils prodigue, tout ce que vous voulez, la parabole des talents, tout cela, ils sont toujours pardonnés ou félicités. Tu t'es cassé la gueule, mon grand, mais c'est pas grave, t'as essayé. Et tous ceux qui refusent de prendre des risques, ils vont toujours en enfer. Et donc, je suis fasciné parce que ces deux caractéristiques, la primauté de l'individu sur la tribu, le droit de dire « j'ai raison et ma tribu a tort », et cette prise de risque, c'est l'essentiel de la civilisation chrétienne et du libéralisme. Je suis libre, et donc, je dis, la plupart des grands saints ont décidé qu'ils étaient libres. Et très, très, très souvent, les gens les regardaient en disant quand même, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas tout seul. Quoi.
Il y a quelque chose, puisque tu parlais de ça, il y a pour moi autre chose qui est assez intéressant dans la religion chrétienne, c'est qu'en se détachant de la notion collective, on est sorti aussi de l'orthopraxie.
Absolument.
De se dire, si on fait tout comme un bon, trois petits points, juif, musulman ou ainsi de suite, le royaume des cieux sera à nous. Chez nous, c'est très étrange. Bien sûr, on est censé respecter les 10 commandements. Bien sûr, en tant que chrétien, on est censé être charitable, essayer de faire le carême et ainsi de suite. Mais tu peux très bien le faire, tout faire bien et pas être accepté au royaume des cieux.
Parce qu'il t'a manqué l'amour.
Et inversement, tu peux tout faire mal et au dernier moment, comme celui de droite ou de gauche à côté de Jésus sur la croix, oui. être accepté au royaume des cieux. Donc l'orthopraxie qui est inhérente à d'autres religions...
Je dis ça parce que les gens à gauche, ils sont rarement...
Non mais la sinistra. l'orthopraxie inhérente à certaines religions ne touche pas la religion chrétienne et effectivement la notion d'individu est primordiale.
Et absolument primordiale. Et donc cette espèce, regardez par exemple Thomas More, bon c'était un chancelier d'Angleterre, un type éminemment sous Henri VIII, et puis... On lui a expliqué qu'il fallait qu'il se soumette au roi et à la religion, qu'il était en train de rompre avec Rome et tout. Et il a dit non. Et donc, il est mort, un petit peu comme... il est mort, il est exécuté, parce qu'il disait que sa personne était supérieure et antérieure à l'État, donc à la tribu. Donc, il avait le droit de dire non. Ça faisait partie de sa liberté d'être humain de dire non. Et ben oui, c'est ça la liberté. Elle peut t'amener jusqu'à la mort, mais tu as le droit de mourir en disant « je ne suis pas d'accord avec ma tribu qui est en train de faire ceci, en train de faire cela, ce que je ne trouve très mal ». Donc, ce qui veut dire en un sens très clair qu'il ne peut pas y avoir de morale collective. Je ne peux pas dire, je sais pas, par exemple... la traite des Noirs, c'est très bien parce que ma tribu l'accepte. Il y a des gens qui, dans l'histoire, ont dit l'esclavagisme, c'est mal. Et les seuls qui ont... faut le dire encore une fois, mais les seuls qui ont aboli l'esclavage qui a existé de tous les temps, ça a été une fois de plus les chrétiens. Personne d'autre n'a jamais aboli l'esclavage. Donc. Alors, ils l'avaient pratiqué à un moment, mais ceux qui l'ont aboli, il n'en reste pas moins que c'est ceux des chrétiens, parce que la dignité des esclaves était égale à la leur. Ils ne pouvaient pas ne pas être libres. Voilà. Cette notion de liberté est absolument consubstantielle à la religion chrétienne. Et ce n'est pas de l'individualisme. Il y a une différence essentielle entre être libre et être individualiste. Si je suis libre profondément, je peux librement décider de m'occuper des autres. Mais je ne peux pas être forcé à le faire.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand les gens me disent « Est-ce que le libéralisme peut exister ailleurs que dans une société chrétienne ?» J'en suis pas sûr.
Non.
Tu vois, ce que je veux pas dire, c'est que c'est tellement...
consubstantiel,
que tu te dis « Ben oui, mais je regarde des mères Teresa, il n'y en a pas ailleurs que dans la religion chrétienne, quoi. » À ma connaissance. Voilà.
Donc, en gros, retrouver ses libertés individuelles devrait être le but civilisationnel que chacun devrait se fixer.
Absolument. Et ça devrait être le but de tout État, ça devrait être de favoriser au maximum la liberté, mettre en point des institutions, etc., pour que chacun puisse trouver, dans le fond, quel est son projet. Et ça doit être le but de l'éducation aussi.
Alors, tu parlais de Huntington tout à l'heure, qui est un auteur intéressant et souvent controversé. Dès qu'on cite Huntington, toute la gauche nous tombe dessus. Et là, on va continuer...
Mais pourtant, il a eu raison sur tout.
Oui. Oh, s'il te plaît, fais pas cette phrase. Je vais m'évanouir. la quatrième grande idée, c'est de dire que le pouvoir des idées est immense. Dans les deux sens.
Et des religions, oui.
Et là, tu peux nous parler de Toynbee. Fais-moi le caveat sur le troisième, s'il te plaît. Oui, vas-y.
Alors, Toynbee, bon, vous avez un certain nombre d'historiens qui essayent de voir, de comprendre les espèces de vagues de fond qu'il y a dans l'histoire. Puis vous en avez des tas, vous en avez tout un tas, c'est une nouvelle école française qui a commencé 40-50 ans, qui s'intéresse à ce qui s'est passé dans un petit village, la taille des cuillères de bois ou n'importe quoi. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu un bouquin de 1000 pages qui était Montaillou, village occitan. Ça se passait au 12e siècle. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Il se passait rien, on vous expliquait la vie du charpentier du village, enfin c'était étonnant. Enfin, 1000 pages, je me le suis cogné, mais je me suis dit, parce que c'était un best-seller, hein.
Il n'a pas traversé les âges, celui-là.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui font une histoire, si vous voulez, complètement anecdotique, événementielle. Et puis, vous avez des gens qui essayent de comprendre les grands mouvements. Bon, Toynbee en faisait partie. Et ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il faisait une espèce de liaison entre les civilisations, qu'il définissait fort bien d'ailleurs, et les religions. C'est-à-dire que quand une civilisation s'écroule, comme la civilisation par exemple gréco-romaine, en Europe, ben, vous avez une religion qui se met à monter et qui fait le lien entre la civilisation gréco-romaine et la civilisation suivante, quoi. Et qui, quelque part, garde une partie des acquis de la civilisation gréco-romaine et puis les transporte et en fait autre chose. L'exemple, si vous voulez, c'est Thomas d'Aquin qui reprend Aristote et qui en fait le thomisme qui a formé l'Europe pendant 10 siècles, quoi. Donc vous avez cette espèce de mélange entre les civilisations et les... Et il dit, les religions et les civilisations, finalement, vous avez des grandes idées missionnaires. Alors, ben, les grandes idées missionnaires, bon, ça a été le christianisme, ça a été une religion, ben, ça a été une idée profondément missionnaire, bon. Puis ensuite, vous avez eu la religion musulmane, qui a été aussi une grande religion missionnaire. Le bouddhisme aussi, qui a été, d'une certaine façon, extrêmement, extrêmement prégnant pour toute l'Asie. Et puis récemment, vous avez eu vous avez des choses comme le socialisme qui sont sorties comme idée, mais qui est un peu une hérésie chrétienne. Vous avez eu le communisme, qui a été aussi assez balèze, mais qui est aussi une espèce d'hérésie chrétienne, puisqu'au début, dans les Actes des Apôtres, ils ont fait une tentative communiste qui a fait un bide pas croyable, donc ils sont passés à autre chose rapidement, parce que ça marchait pas du tout. Et donc, vous avez comme ça ces grandes idées missionnaires, et aujourd'hui, les grandes idées missionnaires... qui domine. On voit que, par exemple, le libéralisme, qui a été une idée missionnaire à partir de l'Angleterre du XVIIe siècle, est en train de disparaître. Que la religion, comme d'ailleurs le christianisme. Le christianisme et le libéralisme sont en train de crever de la même mort, si j'ose dire. Et puis, vous avez de l'autre côté, l'idée missionnaire musulmane, dont on pensait qu'elle était fatiguée il y a 100 ans, quoi, elle est encore très 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 prégnante, c'est très puissant. Et puis vous avez encore des... Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on voit sortir comme idée missionnaire la grande idée de l'Asie, c'est-à-dire la victoire de la tribu sur l'individu. Parce que le confucianisme, quand même, c'est quand même beaucoup. Il faut respecter son père. T'as intérêt, d'ailleurs.
Je t'ai pas chambré sur tes chaussettes ou sur rien du tout aujourd'hui, donc bon.
Bon, il faut respecter son père, et puis le père doit respecter le gouverneur de la province, qui doit respecter donc une espèce d'ordre qui fait passer. Et donc, on se retrouve dans un monde... où, dans le fond, ce principe qui a fait la gloire de notre civilisation, de la supériorité d'individu sur la tribu, il n'y a plus personne qui le défend. Aujourd'hui, par exemple, on t'attaque parce que tu es blanc, ou tu es un mâle blanc. Il y a toutes les attaques à l'heure actuelle. Attaquer l'homme blanc, c'est devenu le sport national de toute une série de gars.
De Sandrine Rousseau et compagnie. Oui.
Y compris d'ailleurs d'hommes blancs qui s'attaquent eux-mêmes. Et ils te disent, tu ne peux pas ne pas être raciste puisque tu es blanc. Donc c'est-à-dire que je suis mauvais dans mon essence. Mais c'est impossible. Je ne peux pas être mauvais dans mon essence, ou alors il faut me liquider. Donc ces espèces d'attaques amènent automatiquement au génocide. Et la seule chose à dire, c'est que la seule chose conceptuellement possible, c'est que chaque homme est égal et chaque homme est jugé en fonction de ce qu'il a fait dans sa vie, de ce qu'il en a fait, mais jamais en fonction de son origine. C'est une idée qui est en train de disparaître et qui est poussée par la gauche.
Mmh. Tout à fait.
Alors que je trouve ça, mais complètement ahurissant. Et donc ces idées missionnaires aujourd'hui, par exemple, c'est des idées que l'homme blanc est fondamentalement mauvais. Ça me laisse pantois.
Mais tu trouves pas que dans la société actuellement, quelque part dans les mouvements politiques, même quand on regarde des mouvements comme la NUPES, on est dans un regroupement de personnalités qui privilégie justement quelque part cette notion de tribu aussi.
Cette notion de tribu. Et alors si tu attaques, si l'un d'entre eux fait quelque chose qui n'est pas bien... Comme par exemple molester sa femme, il y a une espèce de défense en disant on va le défendre parce que c'est notre tribu. Mais non, parce que ça veut dire que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Encore une fois, l'idée que la justice est la même pour tout le monde est une idée tout à fait nouvelle et tout à fait chrétienne, une fois de plus, puisqu'on sera tous jugés à la fin. Et cette histoire de la justice est différente parce que c'est un gars que j'aime bien et que, ben non, je suis désolé, mais tu as fait,
Tu sais, c'est ce que disait ton père et que je trouvais remarquable quand on lui demandait, mais avec 5 enfants, comment vous faites pour l'éducation? Et il disait, mais écoutez, c'est très simple, je ne connais de valeur que d'exemple.
Ben voilà, il suffit de leur donner l'exemple.
Et c'est un peu la limite que j'ai dans un certain raisonnement, quand les gens disent, oui, mais on ne juge pas la vie personnelle.
Si.
Mais si. Mais bien sûr que si, on juge la vie personnelle. Si on voulait juger les gens sur quoi? Mais bien sûr.
Vous voulez juger sur ce qu'ils disent? À ce moment-là, il n'y a que des saints. Hein.
Oui, bah oui. Et puis c'est Tartuffe.
C'est Tartuffe, et c'est exactement c'est Tartuffe.
Et moi, plus un type arrive dans la vie politique en disant « je protège les femmes, il n'y a rien de pire que les types qui... », je me dis « oulala, celui-là, il a des trucs à cacher ». Parce que les gens qui savent qu'ils sont faillibles, moi je sais que je suis faillible, je pars rarement dans des grands trucs de paragon de vertu parce que je dis « bon ».
Moi je suis infaillible, mais je suis gentil avec les autres quand même.
C'est pas ce que dit maman. C'est t'as globalement tort, hein, il veut que tu le saches.
Hein. C'est pour ça.
Voilà.
Voilà. Hein. Absolument. Voilà. Non mais on rigole. Mais
tu n'as raison que sur un truc, c'est quand elle te demande « est-ce que ça me grossit ?» Là, effectivement, la seule réponse possible est non, pas du tout.
Au contraire. Non mais c'est une idée extrêmement importante qui fait partie de cette civilisation, c'est que le mal et le bien passent en nous. C'est-à-dire que le mal, la plupart des gens ont tendance à penser que le mal, c'est à l'extérieur et qu'ils ont que des bonnes intentions. Mais non. Ça passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et le boulot, c'est de déterminer quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le fait avec des intentions est-ce que les résultats sont bons ou pas, quoi. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, déjà admettre que soi-même on est faillible, c'est une notion extrêmement difficile. Surtout si on est puissant.
Oui.
Surtout si on est président de la République ou n'importe quoi, à ce moment-là, tout le monde te dit vous êtes merveilleux, vous êtes intelligent, vous vous trompez jamais. Et au bout d'un certain temps, on le croit.
Mm-hmm. Mais ça, c'est les phénomènes de cour.
Mais il n'y a rien de pire après quelques années. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut jamais qu'un homme politique reste plus de 10 ans au pouvoir au maximum, parce qu'au bout de 10 ans, il est complètement...
C'était la fameuse citation d'un auteur américain qui disait que les hommes politiques et les couches des bébés doivent être changées avec la même régularité et pour les mêmes raisons.
C'était Mark Twain. Voilà.
Les deux puant la merde. Voilà. Et on va terminer cette nécessaire revue des grandes idées pour construire une société ouverte. Et la dernière, qui est absolument fondamentale et qui est aussi relativement théorique, on sort de l'économie un peu plus sur ce terrain, c'est la nécessaire séparation de la loi et de la morale.
Voilà. Alors ça, c'est une mission, et donc, de la religion et de la société civile. C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est tout ce que vous voulez. Pendant des siècles, si vous voulez, dans le fond, l'Église ou les Églises, etc., étaient censées dire, le pouvoir était censé dire le bien ou le mal. Et puis, il y a eu un philosophe français, je crois que c'était aux alentours de 1100, 150.
J'ai sorti Abélard. Les dates. 1079, 1142.
Voilà, c'est ça. Je n'étais pas trop loin. Donc, qui a sorti une idée qui a complètement, qui était présente dans la religion, mais qui était très forte. C'est-à-dire, vous avez deux choses. Vous avez le péché et vous avez le crime. Le péché relève de la morale individuelle, ou de la religion que tu suis. Le crime relève de l'État, qui doit punir le crime. Et donc, il faut qu'il y ait une différence essentielle qui soit faite, même dans le domaine religieux, entre le péché et le crime. Je ne sais pas, mais par exemple, l'adultère, pendant très longtemps... C'était un péché et c'était un crime. Donc, boum, on te lançait des cailloux. Si tu te faisais choper, on te lançait des cailloux.
J'ai jamais compris pourquoi, dans l'histoire de la femme adultère dans la Bible, il y a juste la femme qui se fait lapider. Pourquoi le mec, il se fait pas lapider aussi?
Parce que les mecs, c'est beaucoup plus important que les femmes dans ces sociétés, oui.
Non, mais tu vois, on les chope. Mais elle, je crois qu'elle est mariée, et lui aussi. Donc ils sont tous les deux adultères. Et on la lapide, elle. Mais lapidez-moi les deux.
Oui, c'est pas complètement faux, mais ça, c'est une idée moderne. Si tu veux, autrefois, c'était les femmes qui étaient censées ne pas avoir d'aventure. C'était considéré comme... Mmh. Parce qu'il faut pas oublier que si tu avais une aventure, tu pouvais amener un enfant à ton mari qui n'était pas le sien.
Oui, bien sûr. Alors que c'était quand même la grande idée.
C'était la protection de l'héritage, en quelque sorte. Donc ça, c'était autre chose. Mais donc, faire une différence essentielle et... La morale n'a rien à voir. On ne peut pas juger quelqu'un en termes moraux si ça n'est pas un crime. Or, je ne sais pas si tu as remarqué aujourd'hui, nous avons une morale collective qui s'est mise en place. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les blancs, etc. Je suis condamné parce que je suis un mâle blanc d'un certain âge. Aujourd'hui, on est arrivé à des imbécilités comme... Il y a certaines universités aux États-Unis qui refusent d'enseigner la plupart des grands philosophes, etc., parce que c'était tous des mâles blancs. Ben oui, c'est pas, on est bien triste, mais je veux dire, prendre, encore une fois, un péché et le, en bâtir une, que toi tu trouves un péché, mais qui n'est pas condamné par la loi, tu en fais une morale collective et tu condamnes les gens à partir de cette morale collective, c'est ce que fait la presse aujourd'hui, la radio, la télévision, tout le temps, et c'est odieux. Parce que si le type... Prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, qui m'a complètement laissé pantois. Les gens de... Il y a une équipe de football de l'Assemblée.
Oui.
Bon, ça me fait rigoler. Ils vont aller jouer contre, j'imagine, le Parlement britannique, etc.
Non, ils jouent entre eux.
Ils jouent entre eux, qu'ils aillent jouer avec les autres, ça n'a qu'une importance. Et les types de NUPES refusent de jouer au football avec les mecs du RN. Mais c'est inouï. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, là. Ou le RN est un truc illégal.
Dans ces cas-là, ils doivent...
Ils doivent pas être élus. Il faut les interdire. Ou alors, ils sont élus comme tout le monde, et il n'y a pas de jugement moral à passer sur le fait que le gars est RN ou pas. Parce que tous les gars qui sont... Là, ils ont été supporters de Castro, le type de NUPES, ils ont été supporters du Venezuela, ils ont été supporters du Cambodge, ils ont fait des millions de morts, les gars du RN, par ma connaissance, ils ont jamais supporté quelqu'un qui avait tué des millions de morts. Donc, ces gars-là qui se sont trompés sur tout, passent un jugement moral et excluent de la société civile des gens qui, dans le fond, expriment des idées. Mais c'est... Inouï. Je comprends, on devrait les traîner en justice pour ça.
Et c'est pire que ça, c'est qu'on est dans une époque de faibles qui font du virtue signaling, ouais, c'est-à-dire à notre époque. C'est-à-dire que quelque part, pour monter leur propre cote, ils pointent du droit autrui en disant « Regardez comme il est méchant d'être RN, aimer la chasse, j'en sais rien, ainsi de suite. » Et de cette condamnation, il mange de la viande, ainsi de suite, et de cette condamnation d'autrui, je devrais considérer, comme Sandrine Rousseau, parce qu'elle condamne si et ça, et que ça lui donne un statut. Et ça leur donne un statut, et c'est ça qui me rend folle. Je dis, mais enfin, ils ne font rien que pointer du droit autrui, mais qu'est-ce qu'ils proposent, et en quoi ces gens-là, véritablement, seraient au-dessus de la norme, ou auraient accompli quelque chose pour autrui? C'est pas des mères Teresa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert des foyers pour les femmes battues? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font?
Non, et leur seul truc, c'est d'expliquer qu'il serait nécessaire qu'on augmente les impôts sur Total ou je sais pas quoi pour que eux, ils aient plus d'argent à dépenser dans leur cause à eux. Mais
tu comprends, c'est facile. Parce que on est tous, je veux dire, moi, à chaque fois, je suis une droite populaire. J'ai envie de dire ça. Mais évidemment, moi aussi, j'ai envie que les ouvriers aient plus d'argent. C'est facile de dire, ouais, les méchants patrons. Moi, j'adorerais avoir cette noblesse de cœur de pouvoir, ça marche pas comme ça. Donc, c'est idiot. Je le dis pas à cause de ça. Mais évidemment que j'ai envie que les gens vivent mieux. Évidemment que j'ai envie que tout le monde mange à sa faim.
La meilleure façon pour que les gens vivent mieux, comme toute l'expérience de l'histoire le montre, c'est que les gens soient plus libres individuellement. C'est-à-dire à partir du moment où tu empêches les gens d'exprimer leurs préférences en fixant les prix, etc., par exemple des loyers, en bloquant les loyers, tu vas te retrouver automatiquement avec des gens qui seront mal logés, puisqu'il n'y aura pas les... on bâtira pas les immeubles nécessaires pour qu'ils soient bien logés. Bon, mais voilà, donc encore une fois, ces gens-là pensent que leur liberté est plus importante que la liberté de ceux qu'elle s'adresse. Et donc, ils sont tout à fait d'accord pour que l'appareil étatique restreigne la liberté des types auxquels, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est pas ça, la liberté. La liberté,
et
c'est...
Et puis, au nom de quoi, surtout de au nom de quoi cet État, qui encore une fois n'est pas bon, l'État n'est jamais de la somme que des individus qu'il compose. Et personne n'est pur.
Et tous les crimes du XXe siècle ont été faits par des États qui ont tué des centaines de millions de gens, et avec l'approbation de tous ces gars du NUPES. Donc, encore une fois, peut-être pas les nazis, mais à part ça, il faut pas oublier qu'une grosse partie, d'ailleurs...
C'était des national-socialistes.
C'était national-socialistes, mais il faut pas oublier qu'une grande partie des gars qui étaient autour de Pétain étaient d'anciens socialistes. Donc,
ça émanait du Front Populaire. Le Front Populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain.
Donc, on se retrouve avec toute une série de...
D'ailleurs, attends, aparté, morte de rire cette semaine, parce que quand même, Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué dans un grand pendant les manifs qu'il recréait un Front Populaire. Je dis, ah bah c'est parfait, parce que rappelons-nous, le Front Populaire nous a quand même amené une main devant, une main derrière, avec des tanks qui n'avaient pas de moteur, avec des hôpitaux qui n'étaient pas finis, avec une ligne Maginot. Donc on s'est retrouvés face à l'ennemi avec rien, avec Daladier qui était allé encore une fois négocier à Munich. Et on s'est retrouvés, nous, avec une armée française qui n'était pas prête.
Elle a été vaguement prête, mais elle était très mal commandée.
Elle n'était pas finie.
Elle était très mal commandée parce que les gars qui étaient commandés prenaient les ordres de ces gars qui voulaient le bien de tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y avait... Donc oui, c'est exactement comme les pacifistes. Bon, ben les pacifistes, ben, ils ont été bien gentils, mais ils ont été responsables, d'une certaine façon, d'avoir les Allemands à la maison après. Donc encore une fois... la morale, c'est une notion individuelle. Il ne peut pas y avoir de morale collective. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un en raison d'une morale collective. On peut le condamner uniquement s'il a commis des crimes. À ma connaissance, le Rassemblement national et les gens qui sont dedans n'ont pas commis de crimes. Et donc, il n'y a aucune raison...
De refuser de jouer au foot avec eux.
De refuser de jouer au foot avec eux. Mais c'est du n'importe quoi. C'est même... Moi, quelqu'un ça me fait penser à la blague de Groucho Marx, qui disait « Moi, je ne fais pas partie d'un club qui m'accepte comme membre. » Et moi, quand je vois ces gars du NUPES, je me dis « Jamais je leur parlerai. » Parce que, intellectuellement, ce sont des ordures. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Or, celui qui pense qu'il est meilleur que l'autre, c'est par définition une ordure. C'est jamais j'ai pensé que j'étais meilleur qu'un autre. Parce que bah, j'en sais foutre rien.
Meilleur en quoi ?
Meilleur en quoi ?
Tu peux être meilleur en mathématiques que quelqu'un, mais c'est pas pour ça que cette personne va être...
Parce que je gagne plus d'argent que lui. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, mon père, il est officier, il a jamais gagné un rond de sa vie. On était fauchés comme les blés, mais c'était un être...
Ça déterminait pas sa valeur.
Ça déterminait pas sa valeur.
Et inversement, tu vois, c'est pas... Et c'est très bizarre, justement, ce virtue signaling de notre époque. Et les gens, en fait, de cette posture-là, on disent « Regardez comme je suis un être vertueux, puisque je pointe du doigt toute la journée. » Mais c'est un peu facile. On est dans une immense Arthur Fleurys. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Oui, et toute la journée.
Mais en plus... Je considère comme normal, bon, ben, par exemple, quelqu'un qui a été, qui s'est fait choper, je sais pas, pour pédophilie ou j'en sais rien, qui soit montré du doigt en disant, il faut peut-être pas le laisser autour des enfants aujourd'hui.
Tu sais, moi, je pense très sérieusement que comme dans les vaches, parfois, il y en a une qui est un peu folle, qui naît différente, je pense que c'est une maladie.
Mais c'est une maladie, c'est mais il faut, malades. En tout cas, il faut en protéger les enfants.
Ah bah, évidemment, et le reste de la société.
Il faut donc peut-être les montrer du doigt en disant, vous savez, celui-là, il faut peut-être pas le laisser il faut pas qu'il soit professeur de gym, par exemple. Donc il a commis un crime, mais exprimer une opinion, exprimer une préférence dans des partis politiques et qu'il y ait la moitié...
Élus démocratiquement
et qui, à ma connaissance, n'ont rien fait d'illégal, eh bien, je trouve ça... C'est la mort de la démocratie.
Mais c'est pire que ça. Je vais te dire, parce que j'ai vu des extraits de commissions de finances, tu sais, qui sont indépendamment de ce qui se discute dans l'Assemblée. Ensuite, les députés ont des petites commissions sur lesquelles ils bossent les dossiers. Eh bien, ils refusent de travailler ensemble. Donc, structurellement, c'est bien plus grave qu'un match de foot. C'est-à-dire, ils ne peuvent arriver à aucun accord pour le bien du pays, parce que les crétins d'en face disent « Ah non, non, ils jouent pas au foot avec leur... » Tu dis « Mais là vous êtes en commission de préparation de loi de finances. Faut peut-être avancer sur le dossier. Ah non, on bosse pas avec le RN, on bosse pas avec le RN. » Mais alors, mais dans ces cas-là, filez votre démission si vous voulez pas bosser avec eux. Soyez logique jusqu'au bout. Partez dans la Creuse, élevez des moutons. Si vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous touchez vos jetons de présence, c'est pour faire le boulot. Et le boulot, c'est d'avancer en commission de finances.
Et ça amène à une notion extrêmement importante. C'est ce que disait encore une fois Jean-Paul II. Il disait, dans le fond, la démocratie, c'est quand dans un pays, il y a des partis qui sont pas d'accord. Mais quand l'élection a eu lieu, tout le monde en accepte les résultats. C'est-à-dire, ben, on dit, bon, j'ai été battu cette fois-ci, mais la fois prochaine, j'espère que je gagnerai. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a toute une série de gens qui n'acceptent pas le résultat des élections et qui s'en font gloire. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas démocrates. Le peuple s'est exprimé, tu fermes bien ta gueule et tu travailles avec les gens pour qui le peuple a voté, c'est tout.
Et là, hier, tous les députés de la NUPES râlaient en disant « Oui, le gouvernement dégaine le 49-3 ». Mais évidemment qu'il a eu dégainé le 49-3 avec l'Assemblée, qui est telle qu'elle est, sur la loi de finances. Il est bien évident que...
Si les gens n'ont pas travaillé ensemble...
Il est bien évident que, suivant la Constitution, ils allaient dégainer avec l'Assemblée qui est constituée telle qu'elle est constituée. On sait, je sais, j'ai pas besoin d'en faire des hautes études en droit constite, pour savoir depuis mai qu'on allait passer en 49-3.
Mais non, c'est parce que, puisqu'ils refusent. Et donc la NUPES, ils refusent de travailler avec le Rassemblement National, mais ils refusent aussi de travailler avec le gouvernement. Donc
ça veut dire
à quoi sert-il ?
Ça veut dire qu'aucune motion de censure ne peut avancer. Et les LR, pendant le même temps, ont dit « Ah ben nous, de toute façon, on votera avec les En Marche. » Donc, pareil, aucune motion de censure ne peut avancer. La seule façon de s'en sortir, ça serait que la NUPES vote avec le RN des motions de censure, mais alors là...
Ben voilà, ils vont pas voter les motions de censure. Donc j'ai vu qu'ils avaient chacun présenté une motion de censure différente. Donc j'imagine que la NUPES va pas voter pour celle du RN.
Ah ben non.
Et que le RN va pas voter pour celle de la NUPES.
Et les LR, ils vont pas en déposer.
Parce
qu'à la rigueur, les LR pourraient déposer une motion de censure, les deux... Pourrait, si ils voulaient vraiment faire le truc, les LR pourraient faire sauter. Si les LR déposaient une motion de censure, les RN pourraient voter pour les LR et la NUPES pourrait voter pour les LR. Sauf s'ils jouent au jeu de « je vote pas si le RN vote ». Bon, enfin, ça suffit.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Il y a toute une série des gens qui considèrent que l'autre n'est pas démocrate. Mais bouge pas, c'est pas à toi de déterminer qui est démocrate ou pas, c'est au peuple qui vote. Mm-hmm. Donc, ils se considèrent comme supérieurs au peuple et ils disent « le peuple s'est trompé en votant pour le RN, donc je ne parle pas à ces gens-là ». Mais à ce moment-là, comme tu le dis très bien, ils devraient démissionner.
S'il y a des gens qui t'énervent à ce point-là et ainsi de suite, eh ben, tu changes.
Donc, on revient une fois de plus à la notion de la tribu contre l'individu. C'est-à-dire que ces gens-là se constituent en tribu. Ils considèrent que toutes les autres tribus ne sont pas fréquentables. Et donc, ils ne veulent pas gouverner avec les autres tribus.
Voilà.
Et tu imagines ce que ça veut dire s'ils étaient vraiment au pouvoir, si c'était eux qui avaient la majorité ? On serait tous dans des camps.
Mm-hmm.
Parce que ne pas accepter l'autre, c'est dire que si tu étais au pouvoir, tu t'en occuperais bien du gars. On aurait des stalags partout avec des... comment elle s'appelle, Madame Rousseau, là ? Comment elle s'appelle ?
Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau, il y en a une qui s'appelle Sardine Rousseau, non ?
Oui, c'est ça, c'est sa parodie qui est assez drôle. Elle est...
Elle est gentille ?
Non, mais...
Je l'écoute, elle a l'air douce, elle a l'air sympa.
Non, mais bon, le truc, c'est que...
Elle est fada.
Elle n'est pas fada, mais on est dans l'outrance, et on est dans l'outrance de cette époque qui les porte aussi. Mmh. Et c'est porté... Moi, ce qui me fait très peur, si tu veux, moi qui passe un peu trop de temps, sur les réseaux sociaux, c'est de voir combien ce discours totalitaire, quand on parle des super profits ou ainsi de suite, à l'oreille des Français. C'est-à-dire que les gens sont capables de dire...
Et à l'oreille de la classe dominante qui fait les médias et qui en parle. Je ne sais pas si les Français, ça les énerve tant que ça, parce que...
Si
ils ont travaillé dans des entreprises, et si l'entreprise gagnait pas d'argent, elle disparaissait, quoi. Donc, ça,
oui,
ils
mais
ont compris.
Les gens sont quand même disent, ah oui, mais ça fait beaucoup, c'est pas normal de gagner autant, il faudrait que l'État s'en mêle. Je dis, mais attendez, quelle que soit la solution, l'État doit pas s'en mêler.
Évidemment.
Oui, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. C'est vrai que, pareil, les footballeurs sont payés beaucoup d'argent. Mais ça vous enlève rien. C'est pas parce que ces personnes-là gagnent beaucoup d'argent que ça vous est pris à vous. C'est ça que les gens réfragmentent. Ils ont l'impression que ça leur est pris à eux. Mais c'est pas le cas. Ça marche pas comme ça, l'économie et la croissance.
Mais puis en plus, c'est toujours pareil. Si un type est extraordinairement compétent, et Dieu sait que le président de Total est extraordinairement compétent, en plus, il aime beaucoup le rugby, donc il a toute ma sympathie. Donc, c'est un type tout à fait étonnant. Et il est payé moins que, comment il s'appelle, ce petit jeune homme de 20 ans qui joue au Paris Saint-Germain, quoi.
Oui, n'importe lequel. Enfin, je connais rien.
Non, Mbappé.
Ah oui.
Il est payé beaucoup moins que Mbappé. Mmh. Ben, oui, mais en même temps, Mbappé, bon, il court très vite et il frappe très fort, mais lui, il a fait, il a été corps des mines, il a un parcours étonnant. Donc, c'est un type étonnant. Et il n'y a pas de mal à ce qu'un type étonnant qui a pris des risques incroyables, qui continue à prendre des risques incroyables.
Qui gère plein de gens,
qui les gère dans des situations politiques impossibles parce que le pétrole, pour des raisons que seul Dieu connaît, il est toujours dans des coins impossibles. Il est jamais en Irlande, il est toujours quelque part dans un pays d'Afrique ou enfin fond de la Sibérie, enfin d'ailleurs où il y a des régimes politiques qui sont pas bien nets. Donc, gérer l'exploitation du pétrole dans le monde, pas évident, hein. C'est que de l'autre côté, il y a toute une série de criminels qui sont pas faciles. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration à M. Bouyane et je me dis, vain Dieu, il faudrait bien lui foutre la paix, quoi. C'est comme j'ai été au conseil de SCOR. Ce brave Kessler avait repris SCOR qui était en faillite, l'a remonté et a fait gagner un argent gigantesque à ses actionnaires en reprenant une société qui est en faillite et en faisant la troisième, quatrième société du monde, troisième fois de réassurance. Et il avait des stock options et avec le cours de l'action qui montait,
qu'il a activé, il
gagnait beaucoup d'argent. Mais ils auraient préféré que SCOR fasse faillite si on avait mis un inspecteur des finances. Il l'a redressé de main de maître. Donc il y a une qualité qui est comme, qu'est-ce que vous préférez avoir, un général qui fait tuer toutes ses troupes et qui perd toutes les batailles, ou vous préférez un général qui en fait tuer très peu et qui gagne toutes les batailles? Ben, c'est la même chose. Qu'on foute bien la paix. Si jamais on en a quelques-uns en France qui sont capables de gagner des batailles avec les entreprises, qu'on leur foute bien la paix. Ils sont pas assez payés. Je me souviens de Monsieur Bon, qui avait été à France Télécom, nommé par Monsieur Juppé, ce grand désastre. Ben, Monsieur Bon, il a réussi à foutre France Télécom en l'air et il a perdu, je sais plus combien, 300 milliards, j'en sais rien, mais en prenant des dettes imbéciles pour acheter des sociétés qui ont disparu depuis. Mais celui qui était beaucoup trop payé, il se glorifiait d'être pas être tellement payé, mais celui qui était beaucoup trop payé, c'était Monsieur Bon. Quoi que vous le payiez, il était beaucoup trop cher.
Payer pour du désastre, c'est toujours un peu embêtant, oui.
Regarde, aujourd'hui, par exemple, tous les gars qu'on paye en France, dans notre système politique, ils sont nuls.
Tu as vu que l'ancien Premier ministre, celui qui ressemble à Bourvil, dont j'oublie le nom évidemment, va être nommé à la RATP.
Il va être nommé à la RATP. Et c'est lui qui avait aussi été, paraît-il, responsable de la réforme de l'hôpital. Donc, il est passé réforme de l'hôpital, puis ensuite Covid, désastre ici, désastre là, donc c'est dommage que la RATP soit pas cotée parce que je l'aurais vendu à découvert.
On va attendre un petit peu, mais ça peut se faire. Hein. On peut arranger des trucs. Voilà. Enfin voilà, ça va pas nous aider.
Donc encore une fois, ces idées, on a fait une espèce de développement ici sur des idées importantes. Vous pouvez lire les livres, vous pouvez lire Toynbee, vous pouvez lire vous pouvez lire les évangiles, ça vous fatiguera pas et c'est très bien. Et il y a toute une série de choses à lire comme ça qui valent la peine et sur lesquelles il faut un peu méditer parce que c'est pas tout d'en avoir la connaissance l'ivresse, il faut se laisser pénétrer par les idées parce que quand elles sont devenues vos idées, ça peut changer votre vie. Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que il y aura pas de solution collective pour la France. Il faut que les Français s'améliorent un par un. Ça paraît idiot. Mais parce que nos ancêtres, je me souviens, ils étaient baignés de tout ce que je viens de vous dire. Et donc, ils savaient comment réagir en période de crise. Aujourd'hui, on vous a désappris tout ça. Vous ne le savez plus. Et donc, le vrai travail, c'est que vous le réappreniez vous-même individuellement et que vous essayiez surtout de le passer à vos générations futures. Parce que c'est ça le vrai boulot. Et donc, refaire un peuple qui soit digne et qui aime la liberté au-delà de tout.
Et comme dit Charles, en parlant de transmettre aux générations futures, on connaît tous des gens qui ont regretté de ne pas avoir d'enfants, je ne connais pas de gens qui ont regretté d'en avoir trop.
Ça, c'est un truc, là, il faut le dire aussi, j'ai connu des tas de gens qui étaient très fâchés parce qu'ils avaient eu qu'un ou deux enfants, ils disaient, ouais, mais j'en ai connu qui en avaient eu six ou huit, et ben, il n'y en a aucun qui était en trop. C'est justement, parce que ça, c'est la vie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on vit un peu, ce que disait encore une fois Jean-Paul II, dans une société aujourd'hui qui cherche à vous déshumaniser, à vous rendre moins libre, plus bas.
Bah, d'où tous ces discours sur le suicide assisté aussi.
Mais on y vient.
Qu'ils appellent euthanasie, mais qui est un suicide assisté.
Oui. Et on demande à un docteur de faire ça, ce qui est contraire au serment d'Hippocrate. Donc...
Et ne vous leurrez pas. Moi, j'ai accompagné très jeune ton frère dans un parcours difficile. Qui était le sida à l'époque, qui n'était pas traité, les médecins vous proposent tout à fait des solutions d'accompagnement quand on est en fin de vie, de choix.
Mais il ne doit pas y avoir de législation. Il y a des endroits où la main du législateur ne doit pas aller.
J'ai entendu Michel Onfray dire quelque chose d'horrible, qui disait « oui, il faut le faire, parce que sinon, les riches vont y avoir accès et les pauvres non ». C'est pas vrai. Un médecin, quand il regarde un malade qui est en souffrance terminale de sida, comme c'était le cas de François, expliquait très bien comment gérer la pompe à morphine. Et il l'aurait fait. Et tu te souviens, il y avait ce grand black qui nous est tombé dans les bras, qui pleurait, en disant c'est horrible cette maladie, on les perd tous. C'était pas une question d'argent, c'est une question de cœur. Il y a des gens, ils ont ce cœur-là, et voilà, et c'est pas une question d'argent.
Ce type,
les gens qui accompagnent les gens en fin de vie,
c'est pas ça pour l'argent. Ce gars-là, il pleurait comme un veau et il allait aider tous ces pauvres sidaïques partout. Mais c'est une histoire triste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit ça, on s'en rend compte très bien qu'il y a quand même des gens qui sont là et qui viennent aider sans rien en attendre. Il y en a un qui est prêt à aider aussi.
Je le crois fondamentalement dans la nature. Il y a des gens qui ont, et on l'a plus ou moins, ce besoin d'aider l'autre. L'idée que l'État devrait forcer les uns ou les autres à faire ça, oui, peut-être régenter des professions médicales ou ainsi de suite, mais regarde, tu as une sœur, Francine, tu la laisses 5 minutes, elle te trouve 3 chats à pattes blessées, 5 pigeons, de quel que soit l'endroit. T'as l'impression que toutes les bêtes blessées du pays de Normandie viennent la voir, elle.
Viennent la voir, elle a été parfaitement pour la maladie de mon frère aussi. Donc il y a en effet des gens qui ont ça en eux et ils doivent l'exprimer librement. Et ça va, c'est un peu sombre, mais c'est pas sombre du tout, parce que je crois que c'est la condition sine qua non pour être heureux, c'est de rechercher justement cette liberté.
Non, tu sais, c'est pas sombre. On va conclure sur ça, mais ce que je veux dire, c'est que on a vu au moment du Covid, et je l'avais déjà exprimé aussi dans un entretien. La mort fait partie de la vie.
Oui.
Il faut arrêter de dire « je ne veux pas regarder la mort en face, laissons la mort de côté, le suicide assisté doit se faire ». Non, laissons nos mourants au milieu de nos familles,
voilà.
entourons-les jusqu'au dernier moment, ne mettons pas, autant que faire se peut, les vieillards dans des hospices. Je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de le faire, j'ai un ami qui a dû le faire avec ses grands-parents parce que c'était une question de propreté sûreté, de sécurité, parce qu'ils s'enfuyaient, ils n'ont pas toute leur tête, donc tu ne peux pas aussi quand tu es tout seul.
Bon,
voilà. Donc il y a des cas où... Mais sinon, gardons la mort au milieu de nos familles, oui, c'est tout.
Autrefois, le tableau de Greuze, le vieux monsieur qui meurt, entouré de toute sa famille, et voilà, c'était un tableau un peu génial, mais c'est envoyé, il disait adieu à ses enfants, ben c'est très bien. Et moi, je trouve que, en effet, on a une relation à la mort. En fait, on est dans une société de mort qui essaye de nous cacher la mort, ce qui est un drôle de truc.
Et la souffrance, qui fait partie de la vie aussi.
Voilà. Écoutez, donc, vous voyez, c'est-à-dire...
On espère qu'on vous a bien remonté le moral. Non, je rigole. Encore une fois, c'est pas grave. On en parle, c'est tout.
On en parle, mais surtout, c'est un effort individuel. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas à chacun un effort individuel. C'est pas... Il n'y a pas un grand homme qui va sortir et qui va faire l'effort à votre place.
Non. Non. Déjà qu'il ne le fait pas pour lui, en général. Voilà, écoutez, je suis ravie que vous ayez pu nous suivre pour ce deuxième épisode, donc qui expliquait un peu comment tenter de s'en sortir, puisque c'est pas le tout de critiquer, il faut aussi proposer des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux chapitres, on fera bientôt une émission de questions plus large, et on vous retrouve pour de nouvelles aventures, donc la semaine prochaine.
Voilà.
Le DAF a été bien.
Il a ronflé un peu,
mais il était mignon. Ouais, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.